Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what, I like that idea.
Ce podcast est rendu possible par Stellar, un collectif de top CPO qui ont participé au succès de startups comme Zenly, Sunday, Spendesk ou Blablacar.
I'm so happy.
J'ai cofondé ce collectif avec une mission, aider les dirigeants d'entreprises tech à créer les produits qui dominent leurs industries.
Oh, yes, yes.
Retard sur la roadmap, équipe désalignée, produits lents à décoller, ces problèmes, nos CPO les connaissent par cœur. Et ils débarquent à tes côtés pour les résoudre dans des formats rapides, actionnables et clés en main.
Well, that's excellent.
Si tu es dirigeant ou CPO et que tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a très certainement des choses à se dire. On se retrouve sur wearestellar.io ou via le lien en description d'épisode.
Oh, yes, yes.
Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. On y est, la saison 4 de Clé de voûte touche à sa fin après 36 épisodes aux côtés des meilleurs product leaders français. J'espère vraiment qu'elle t'a plu. À titre personnel, cette saison est probablement celle qui m'a le plus ouvert les yeux sur le métier de product et son importance dans la réussite des boîtes tech. D'abord, j'ai autant appris d'un point de vue technique que sur la place du product management dans la réussite d'une boîte. Il y a vraiment eu un avant-après personnel et cette évolution va beaucoup influencer la suite du podcast. Et justement, dans cet épisode, j'aimerais te parler de la suite comme je l'ai fait il y a un an. Tu le sais sans doute, via Clé de voûte, je fais mon maximum pour t'apporter de la valeur afin de devenir meilleur dans ton quotidien. Et pour ça, je souhaite améliorer le format en continu pour en faire le meilleur podcast produit que tu puisses écouter. Mais avant de te parler du futur de Clé de voûte, j'aimerais revenir sur mes 10 apprentissages de la saison 4. Des apprentissages qui, j'espère, t'aideront à prendre du recul et te donneront envie d'écouter ou de réécouter certains épisodes de la saison qui vient de s'achever. Il y a quelque chose que j'ai appris cette année et que je n'aurais probablement pas pu réaliser avant, c'est que la fonction produit n'est pas qu'un poste de coût. On peut en fait la lier à un retour sur investissement. Et j'aimerais en faire mon apprentissage numéro 1. En effet, le ralentissement de la tech en 2023 a littéralement changé la perception de la fonction produit dans les entreprises tech. On est passé du « quoi qu'il en coûte » à une rationalisation drastique des coûts. Les équipes produits et tous les acteurs qui participent à la création de produits l'ont vécu en première ligne. Et pour beaucoup, ça a été une découverte assez inédite, car le métier de product manager est jeune, et beaucoup de nouveaux PM n'ont jamais connu de tels ralentissements économiques. De ce fait, ils ont appris à faire du produit sans en mesurer directement les investissements liés. Et apprendre ça sur le tas est très compliqué, même si ça fait partie du métier. Mais c'est pas infaisable. Et s'il y a bien quelqu'un qui me l'a fait réaliser de manière très concrète, c'est Fabrice Desmazeries, l'ex-CPO de The Fork, dans l'épisode 79. Pour lui, le retour sur investissement de la fonction produit peut être maximisé via trois principes. Le principe d'investissement, le principe de capping et le principe de portfolio. Je t'invite vraiment à écouter la partie 2 de son épisode pour en savoir plus. Personnellement, ce passage a changé ma perception de l'investissement sur les sujets product. Mon deuxième apprentissage porte sur la collaboration entre le produit et les autres équipes. Beaucoup de products partent du principe que leur métier est bien compris par les autres équipes d'une boîte. Mais c'est faux. Et c'est ce qui mène à une collaboration inefficace. Alors pour bien collaborer avec les techs, les sales, le support client ou encore le marketing, le chemin à suivre est toujours à peu près le même. Dans l'épisode 73, Bruno Pacini, le CPO de Shine, recommande de passer par une phase de compréhension des rôles de chacun pour tisser la relation. Pour ça, il conseille d'organiser des one-to-one réguliers, par exemple. Et ensuite, on peut créer de la co-responsabilité. Dans l'épisode 55, Vincent Colombet, ancien product director de Content Square et actuel CPO de DeepL, propose que les métiers se réunissent chaque mois pour mettre en commun les feedbacks remontés par chacun. Il est ensuite possible d'unir les forces de toutes les équipes entre elles en atteignant des résultats communs. C'est ce qui permet une collaboration forte et sans silo entre chaque équipe. Mon troisième apprentissage porte sur l'évolution de carrière. J'avoue que je sous-estimais l'importance de la création de parcours carrière dans les entreprises pour apporter de l'ordre et permettre aux employés de se projeter et de progresser. Pour Amandine Dur, la CPO de Backmarket et invitée de l'épisode 61, le parcours carrière devient important quand il y a environ 4 ou 5 personnes dans une même famille de postes, car les employés commencent à vouloir se projeter et qu'il est crucial de leur fournir des lignes directrices pour progresser et s'améliorer. Sébastien Levaillant, VP Product de Payfit, souligne dans l'épisode 75 que le parcours carrière doit absolument vivre dans le temps pour revisiter les rôles de chaque membre d'une équipe. Selon lui, il devient inutile s'il reste figé. Mon quatrième apprentissage concerne la prise de poste des PM ou des CPO. Intuitivement, quand on arrive sur un nouveau poste, on a envie de passer à l'action pour prouver notre valeur. Dans l'épisode 68, Isabelle Bénard, la CPO de Miracle, explique qu'une prise de poste passe avant tout par une phase d'écoute active avant même de devoir délivrer le travail classique du PM. Pour elle, un nouveau PM doit se taire, écouter, poser des questions et établir un plan d'action. C'est aussi ce que Rémi Bardou, l'ex-CPO de Sologer et de Chauffeur Privé, recommande de faire en établissant un rapport d'étonnement. Pour lui, un nouveau PM doit prendre le temps d'analyser les signaux faibles et de garder une posture d'écoute pour ne pas perturber le quotidien des équipes. Le thème de mon cinquième apprentissage est lié au passage à l'échelle d'une équipe produit. Pour grossir une équipe, on a bien sûr besoin de recruter et de la structurer pour que chacun trouve sa place. Mais ce qui pose problème quand une entreprise grossit, c'est que l'information devient de plus en plus opaque. Et ce manque d'information génère un manque de visibilité au sein de l'entreprise qui peut engendrer une perte de confiance vis-à-vis de l'équipe produit. Ce que j'ai appris dans cette saison, c'est que la data joue un rôle clé dans la confiance des autres équipes envers l'équipe produit. César Miguel, ex-CPO de Cityscoot, explique dans l'épisode 80 que la data apporte de la clarté dans les décisions produits. La donnée est un langage qui parle à toute l'entreprise. C'est un langage complètement universel. Elle permet aussi d'aborder les sujets de rentabilité comme évoqué précédemment dans cet épisode, ce qui aide à justifier le temps passé sur certains chantiers et non sur d'autres. Augustin Delaporte, VP Product de Plateforme.sh, indique dans l'épisode 72 que cette data est en plus de ça corrélée aux objectifs ou OKR qui peuvent être communs entre l'équipe produit et les autres équipes. Mon sixième apprentissage porte sur la discovery. Je sais pas vous, mais moi, en 2023, j'ai senti un ras-le-bol général au sujet de la discovery. Probablement du fait de l'explosion des métiers du produit et de la multiplicité des contenus sortis sur le sujet. En plus du contexte économique qui poussait les équipes à réfléchir rentabilité et à presque abandonner l'exploration d'opportunités. On assiste presque à un rejet de la discovery, surtout de la part des dirigeants d'entreprises tech qui ont l'impression que leurs équipes produits perdent leur temps à faire de la discovery. Et c'est probablement une fausse croyance. Car la discovery sera toujours la bonne voie pour sortir un produit qui apporte une solution aux problèmes des utilisateurs et in fine des revenus pour l'entreprise. Pour aller à contre-courant de cette pensée négative vis-à-vis de la discovery, Danny Huertas, VP Product de Card, explique dans l'épisode 78 comment il accélère la vitesse des équipes grâce à la discovery. Pour ça, il met en place un process de discovery contraint en temps qui impose un rythme à l'équipe. Une preuve que la discovery n'est pas une phase anti-ROI et qui fait perdre du temps. Toujours sur la discovery, mon septième apprentissage remet en cause un concept bien ancré dans la création de produits tech. Celui qui dit que la discovery sert à valider des hypothèses. Selon Rémi Guyot, cofondateur de la méthode Discovery Discipline et ancien CPO de Blablacar, la discovery sert à renforcer ou à forger une conviction. En cherchant la validation, le risque est de passer à côté de bonnes idées que la discovery disqualifie. L'exemple typique est Blablacar, justement. Quand Frédéric Mazzella, son fondateur, a voulu lancer la plateforme de covoiturage, il a reçu des centaines de signaux qui le dissuadaient de lancer cette idée. Tout le monde pensait que cette idée n'allait intéresser personne. Heureusement qu'il a fait attention à écouter son intuition et ses convictions. Et ces mêmes convictions ont été forgées par de la discovery faite au préalable. La discovery ne doit pas être de la recherche fondamentale ou mathématique. Elle est là pour enrichir, pas pour valider. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé sur cette saison, c'est pouvoir bénéficier du recul de CPO sur ce qu'est un bon product manager. On lit énormément de contenu sur les soft skills du PM avec les mêmes qualités qui ressortent tout le temps, comme la curiosité ou l'empathie, par exemple. Mais au-delà de ces soft skills, cette saison m'a aidé à comprendre quelque chose. Pour être un excellent ou une excellente product manager, il faut travailler son état d'esprit. Travailler son état d'esprit, ça veut dire par exemple accepter l'imperfection. C'est ce qu'évoque Clément Falchier, le CPO de Worklife, dans l'épisode 57. Pour lui, le product manager a l'ego de vouloir faire le produit parfait. Mais ça n'arrive jamais. C'est un peu comme Instagram vs la réalité. Le PM met tellement d'énergie ou d'ego dans son produit qu'il est déçu quand il sort. Pour changer cette perception, Clément recommande d'observer les produits qui nous entourent et qui sont aboutis bien qu'imparfaits. Par exemple, l'écoute sans coupure d'une note vocale sur iPhone. Dans le quotidien, il faut toujours prioriser et se demander ce qui n'est pas important dans une fonctionnalité. Mon neuvième apprentissage porte sur le recrutement. J'ai eu l'occasion d'en parler dans mon épisode hors-série avec Alex Watrelos, l'ex-CPO de Sunday et actuel CPO de Furious, diffusé en janvier dernier. Dans cet épisode, Alex m'explique qu'une de ses erreurs a été de vouloir recruter des profils similaires qu'il qualifiait de fusées. Les profils dits fusées sont pour lui des personnes qui veulent toujours mieux faire, ce qui nécessite de changer beaucoup de choses dans une entreprise en permanence. Le problème est que cette attitude provoque des frictions au sein des équipes. Alors il a commencé à recruter des profils qu'il qualifie de « rock », qui sont plus expérimentés et qui ont apporté beaucoup de stabilité chez Sunday. L'apprentissage est donc de trouver un équilibre entre les profils « rock » et les profils « fusées » pour une collaboration et une efficacité optimale. Et pour clore ce bilan de la saison 4, j'ai appris quelque chose après avoir interviewé 36 product leaders, même les gens aux CV les plus impressionnants, et j'en ai interviewé plus d'un, ont des doutes, se sentent imposteurs et ne se sentent parfois pas au niveau. Je sais à quel point les PM se posent des questions et peuvent céder à la tentation de se comparer aux autres. Je vous le dis haut et fort, cette attitude de remise en question est humaine. Même avec 20 ans d'expérience au produit, vous aurez encore des doutes, des problèmes difficiles à résoudre, des lacunes et l'envie de tout arrêter. L'essentiel est d'en être conscient et de regarder devant. Et si je peux vous aider à le faire à travers Clé de Voûte, j'aurai fait mon job. Maintenant, j'aimerais prendre le temps de vous expliquer la suite. Depuis 3 ans, Clé de Voûte a un objectif. Aider les équipes produits dans leur quotidien grâce à des retours d'expérience de product leaders expérimentés. Mais depuis quelques mois, j'ai réalisé un truc. Bien qu'une grande partie des auditeurs du podcast me remontent qu'ils parviennent à progresser rapidement grâce au podcast, d'autres m'expliquent que ce n'est pas le cas. En creusant, j'ai compris que pour ces derniers, faire évoluer leurs pratiques est difficile car les autres équipes de leur entreprise ne sont pas initiées au métier du produit. Et de ce fait, tout ce qui est partagé sur Clé de Voûte est difficilement applicable. Alors j'ai pris un temps de réflexion et j'ai mûri un constat. Si les personnes qui composent une boîte tech ne comprennent pas les enjeux de la création de produits tech, alors les équipes produits continueront à donner des coups d'épée dans l'eau. Pour créer les produits de demain, absolument tout le monde dans l'entreprise doit participer au développement produit. Et pour y participer, tout le monde doit parfaitement comprendre ce que ça implique. J'ai décidé de contribuer à ce dernier point en mettant à jour la mission de Clé de Voûte. Clé de Voûte ne doit plus seulement être le podcast des products pour les products. Clé de Voûte doit devenir le podcast produit de référence pour toutes les personnes qui créent les produits de demain. Alors pour la 5e saison, j'ai décidé de prendre un gros virage. Et ce virage va surtout concerner le profil des invités. Je continuerai à inviter des CPO comme je l'ai fait sur la saison 4. Je vais même inviter à nouveau des product managers contributeurs individuels comme je l'ai fait sur les saisons 1 à 3. Mais cette future saison va être l'occasion d'inviter les autres acteurs du développement produit. Les CEO, les designers, les techs, les marketeurs et même les investisseurs. Je te rassure directement, j'ai pas vocation à créer un énième podcast généraliste. Clé de Voûte restera un podcast produit où chacun en parle à sa façon. En suivant une philosophie qui n'a jamais bougé, te livrer un max d'apprentissage, de conseils, de recommandations à appliquer directement dans ton quotidien. Grâce à ce nouveau format, tel que je l'imagine, tu pourras envoyer les épisodes qui te parlent à tes équipes, qu'elles soient product ou non, pour initier les discussions, des réflexions pouvant aboutir sur des décisions. Cette 5e saison est en cours de préparation et les invités prévus sont vraiment canons. J'ai vraiment trop hâte de te les faire découvrir et surtout d'avoir tes retours. Si tu as des idées d'invités ou des réflexions sur le format, envoie-les-moi par message à timothée@wearestellar.io. Timothée, T-I-M-O-T-H-E. Je réponds à tous mes messages. D'ici là, je te souhaite une super fin de journée et je te donne rendez-vous pour la saison 5 dans quelques semaines. À très vite. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
I have everything here.
Si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.